terre. Mais comme vous savez, enfin, ça, quand on fait des travaux là-dessus, que ce soit un conducteur de camion qui a aussi son programme, mais a fortiori un conducteur de Airbus, vous avez évidemment le pilote qui trouve que le genre de confiance qu'il peut avoir, lui, dans son rapport précisément familiarisé au monde, est supérieur à ses instruments, par définition, articulés sur des plans, et que donc il va changer la vitesse du vent pour que ça puisse faire l'opération qu'il souhaitait. Donc là aussi, on a un exemple de jeu entre plusieurs régimes de confiance.
Je voudrais vous poser une question pour rapport. Si on fait un parallèle avec, par exemple, Kant, enfin, se demander s'il y avait une seule action qui n'ait jamais été accomplie par devoir. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la même question sur la confiance en se disant, est-ce qu'on peut réellement avoir confiance? Je veux dire, est-ce que c'est de la confiance, c'est pas une utopie, c'est pas une imagination, en fait, c'est qu'on projette finalement sur l'autre à travers une représentation éthique qu'on se fait de l'autre. Au sens où, si on a une preuve de la confiance, on n'a plus besoin d'avoir confiance. Parce que la projection qu'on a fait dans le futur est réalisée. Donc la confiance, elle renvoie quand même au problème du temps et au problème de ce qu'on imagine être une sorte de, je sais pas moi, de asymptote, de quelque chose qui ne sera jamais atteint, mais qui nous fait vivre, en fait. Parce que je me posais la question, qu'est-ce qu'une vie qui serait sans confiance? Est-ce qu'on pourrait vivre sans la confiance? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le devoir de confiance, je crois que c'est quelque chose qui est propre, qui est caractéristique de l'existence même de l'homme. Parce que s'il n'y a pas la confiance, c'est clair.
C'est une réflexion dans...
De contraintes.
De contraintes. On ne peut pas. Enfin, on est obligé dans la vie de tous les jours. En France, c'est pas facile. Il y a plein de gens qui sont plus ou moins inconsciemment. Effectivement, s'il n'y a pas d'inconscience, la confiance, c'est autre chose que tout cela. La confiance, elle est là, elle est là tous les jours. Elle est là plein de choses. On ne peut pas vivre sans confiance. Peut-être que les gens ont moins de dispositions qui font que ça se rend.
Mais ce qui
caractérise.
Mais ce
n'est pas.
Mais. Dans les
adhérents, vous avez
déjà dit. Non, mais c'est vis-à-vis de la vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui serait de l'ordre de presque de l'essence du vivant, que d'être lié à l'autre par une confiance. C'est comme l'amour, on peut être déçu de l'amour, mais on ne peut pas vivre sans l'amour. Il y a quelque chose qui est.
Mais ça n'en fait pas, quelque part.
Non, c'est un.
Non, mais un devoir au sens plutôt moral, au sens qui caractériserait. Mais de toute façon, il y a la deuxième caractéristique de la confiance, c'est qu'on ne peut jamais démontrer. C'est pas quelque chose qu'on peut démontrer. On ne peut pas avoir de certitude. C'est-à-dire que l'acte de la confiance, elle se base sur. C'est ce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur un espoir, en fait.
Mais je pense que vous parlez de la foi. Et nous, on a parlé tout l'après-midi de la confiance. Enfin, je pense que c'est un très beau thème, la foi. Et c'est peut-être une attitude morale fondamentale, mais c'est un autre thème. Vous parlez vraiment de la foi. Enfin, il peut y avoir là aussi, mais, disons, la confiance, alors, comme on la conceptualise aujourd'hui, ça ne relève pas du devoir irrationnel de croire à quelque chose sur lequel on n'a pas besoin de...
Quand j'entends pas tellement, honnêtement, pas tellement parler de confiance, j'entends plus parler de défiance.
Alors, heureusement, malheureusement, j'ai vraiment gâché beaucoup de temps les dernières années de cette question. Et je vous assure, en vous entendant parler, je dis, ça c'est de la foi, c'est très intéressant, mais c'est le problème de la foi.
Mais
est-ce qu'on a le devoir de croire? Moi, j'espère que non, mais...
Monsieur Kenneth, vous aviez une remarque?
C'était par rapport...
Ah oui.
À l'idée de Laurent... Sur les choses soutiennent la confiance. pense que là, quand même, il faut peut-être distinguer deux plans. Ça faisait penser à l'exemple du malade qui fait confiance au médecin. C'est évident que cette confiance repose sur tout le dispositif, oui, et les équipements et toutes les techniques claires. Mais néanmoins, il y aurait deux niveaux à distinguer, qui est effectivement le type, disons, de confiance dont les choses elles-mêmes bénéficient, qui soutiennent effectivement la confiance ensuite dans des personnes. Et c'est pas le même type de confiance. Et là, par rapport au premier, par rapport au type de confiance dont bénéficient les choses, et encore dans le domaine du familier, est-ce qu'il faut appeler ça une confiance intime? C'est un peu. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que cette confiance dans le domaine du familier? Je pense entre autres à la théorie qu'en a faite quelqu'un comme Michael Pollady, qui lui parle d'engagement personnel. Enfin, c'est l'engagement, disons, du scientifique, hein, vis-à-vis d'un certain nombre de faits, de théories, de standards qui sont les siens, qui est un engagement personnel. Et donc, effectivement, et c'est une sorte à ce moment-là d'appropriation. Quoi. Effectivement, il s'installe là-dedans comme on s'installe dans une maison pour reprendre des images à la marque. Mais cet engagement personnel, c'est pas, à mon avis, c'est pas de l'intime. Hein, c'est autre chose que de l'intime.
Oui. Là, je suis d'accord aussi sur la formulation. C'est pas évidemment les objets. Il y a pas. Ça serait absurde de confondre le rapport à un humain et le rapport à un objet. Bien entendu, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là. Je voulais dire que ce que tu as dit, que le genre de préparation de l'objet tout de même spécifiait le type de traitement de la personne qui allait être faite, et donc aussi avait un rôle important dans cette confiance. Et pour la deuxième partie, je suis tout à fait d'accord, mais pourquoi est-ce que l'intime, c'est pas bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui te choque? Parce que pourquoi je dis intime? Parce que d'abord, c'est pas du tout réservé, bien sûr, aux scientifiques. Là, il s'agit vraiment d'aller vers des maintiens de la personnalité. Qui sont souvent dits intimes lorsqu'on le regarde sous l'angle du dessin, tu vois, de la personne qui va avec. Parce que personnel, du coup, ça devient un peu faible pour dire que c'est vraiment quelque chose de qui, étant spécifié de cette façon-là, lorsqu'il est affecté, parce que tout de même, c'est bien les questions qui nous intéressent. Là, pour le coup, justement, c'est les émotions qui vont venir auront ce genre de coloration, parce que tout de même on touche à l'intime. Le personnel est un peu léger, mais c'est tout. Je suis d'accord.
Je peux vous poser une question sur empirique, sur votre travail sur la Russie et les États-Unis. Donc vous avez ce travail comparatif sur plusieurs. Est-ce qu'il y a un lien, disons, entre régime de confiance, un lien, disons, quantitatif? Donc plus on a une garantie, plus on fait confiance dans le premier régime,
oui,
moins on fait confiance dans le troisième, et vice versa. Est-ce qu'on peut avoir une prédiction du type, les pays où la garantie conventionnelle est faible sont des pays où on peut s'attendre à trouver une confiance personnelle plus forte? Je me le demande. Parce oui. que je dirais, par exemple, ça, c'est le cas de l'Italie.
Bien
tout le monde est sympa parce que, justement,
bien
vous
sûr.
Pouvez vous fier seulement de liens personnels. C'est la seule chose qui marche. Et donc, on renforce le troisième régime parce que le premier est fonctionnel.
Oui, on renforce jusqu'à un certain point.
Si
parce que j'ai travaillé aussi avec des Italiens. En même temps, comme vous savez, toute cette politique, notamment régionale, est entièrement formatée dans un langage de contrat et aussi de marché. Comme vous imaginez, je ne cherche pas à la soutenir. Je cherche à dire qu'il y a bien aussi des greffes d'autres grammaire qui font valoir d'autres régimes. Donc je trouve aussi qu'il ne faut pas simplifier culturellement.
Non, je me demandais s'il y avait un rapport.
Et alors moi, je pense, c'est ce qu'on voit, mais ça n'a pas de prétention tout de même quantitative, ce qu'on a fait. Je pense tout à fait, c'est une thèse en particulier très joliment développée par un des chercheurs russes de notre équipe, qui le développe à propos de l'usage de la sexualité en Russie dans des contextes professionnels où il poserait plus problème en Occident. Donc il fait toute une analyse de cette place du corps par remplacement de la reconnaissance des conventions. Mais en même temps, c'est pas si simple puisque vous avez l'étage du milieu, c'est-à-dire que et du côté aujourd'hui, par exemple en Russie, il y a un énorme discours cynique qui est presque majoritaire chez les intellectuels, qui disqualifie le niveau du haut et le niveau du bas. Et qui est un discours de sciences politiques standard, d'intérêt. Oui. Bon. Du côté américain, ce qui me frappe par les travaux de, je les cite, Nina Yassoff, Paul Lichterman, qui sont des très grands, très subtils sociologues américains, c'est très frappant de voir que, alors même que ce sont les régimes du plan et au-dessus, qui sont mis en avant, par exemple, par des programmes d'aide à tous les jeunes. Après l'école et tout ça, sponsorisé essentiellement par des fonds privés. Bon, ce sont des gens qui ont étudié ça sur le long terme. On voit très bien des animatrices. D'abord, on a l'idée que les volontaires seront mieux, puis qu'ils seront plus près, plus charitables. Alors on voit qu'en fait, c'est plutôt les professionnels qui sont plus subtils avec les différents registres. Et en particulier, qui vont contre, en quelque sorte, le privilège accordé aux deux niveaux du haut, travailler à des liens de confiance, de proximité, en plus, pas pour remplacer, vous comprenez bien. C'est pour ça qu'en réalité, la réponse est plus compliquée, parce que il y a des architectures diverses entre ces différents régimes. Donc c'est pas simplement le bas contre le haut, le haut contre le bas. Bien sûr, on peut simplifier comme ça, mais. Et du côté américain, c'est intéressant, parce que là, c'était frappant que ce qu'elle faisait, cette animatrice, elle avait créé des forts liens de confiance avec ces petits-là, ces petites. Et au fond, c'était pas traitable dans le langage des sponsors, des politiques. Des...
Mais monsieur Nicolas, avec question, moi j'avais juste une question. Enfin, mais allez-y, monsieur Nicolas.
Oui, c'est sûr. La familiarité est un point proche de celui de Louis, c'est sur la familiarité et les objets.
Oui.
Il me semble qu'on va parler de confiance, on va entrer dans les questions de confiance, justement. Enfin, les confiances, ça suppose des questions, des mises en question possibles, ou des ruptures, ou des,
oui,
des faillites possibles. Donc la plupart du temps, dans le régime de familiarité, on ne se pose pas ce genre de problème, et justement, d'ailleurs, à la limite furieux quand justement un objet se casse ou ne fonctionne pas. Parce qu'on n'avait pas anticipé du tout qu'il le ferait.
Comme il dit, ça arrive souvent.
Oui, ça arrive, mais tu n'es pas en train de te poser cette question-là. Si tu veux, c'est pas comme quand tu prends un parapente et évidemment tu te demandes si les suspentes tiennent. Hein, donc,
tu ne te demandes pas à l'avance. Ouais. Mais enfin, la question de la confiance est même là, non? Pourquoi
Non, je pense que là c'est carrément du mode routine, c'est-à-dire c'est tu suspends justement la question de confiance, tu la poses même pas.
Ben, non, parce que
tu vas comme une confiance active.
T'as un type d'aise qui c'est pas seulement une routine au sens de la répétition.
Oui. Tu vois, la routine est vient éventuellement d'une confiance,
oui,
instaurée,
oui,
mais c'est bien.
Ah, tu veux dire qu'elle est suspendue. La question est suspendue. Oui, mais alors, on aurait ça aussi dans les autres régimes, quand même. Des tas de moments où la question est suspendue.
Sur le gouvernement, sur
tu vois
fonctionnement des institutions, tu ne vas pas t'interroger.
Je pense qu'il faut différencier
les moments où la question.
Ce n'est pas des problèmes de confiance, c'est des problèmes de poursuite de la normalité du régime en question et les moments importants où on va se... C'est pour ça aussi que pour le taxi, conversation avec... Enfin, tout ce qui est... D'ailleurs, justement, là, si en revanche, on devait généraliser la confiance, et donc si tu utilisais la confiance au sens de Gloria, donc au sens finalement aussi de précision, présupposition, de pertinence...
Là, c'est vraiment une confiance interactive qui voilà. À ce moment-là,
toute conversation suppose une confiance, et je ne vois pas quelle place aurait le régime d'une conversation banale. Tu vois, ça ne dit de la convention, ni
oui,
du plan, ni de la familiarité, rien de tout ça. Donc il faudrait que tu rajoutes un régime bizarre.
Non, parce que si
de la familiarité peut-être.
Oui, mais attends, la stratégie, elle est tout de même de rapporter l'éprouver, le moment de l'éprouver où précisément le doute vient, à un type de moment avant où tu disais il se passe pas de questionnement. Moi, j'ai plutôt la stratégie de relier les deux parce que je trouve que la qualité du doute. Est lié à la qualité de ce que tu appelais le slave, enfin tu appelais pas, mais disons du ça tourne, ça va de soi. Donc c'est pas qu'il y a un régime où ça tourne, il y a un régime où le doute et la confiance est là.
J'aurais pu. Tu vois comment ça marchera dans le.
Mais non, la conversation, j'en ferai. Non, j'en ferai.
C'est ce genre de conversation en fait, on meuble la conversation.
Ouais. Non seulement, mais là je pense que c'est.
Ouais.
Et c'est, ouais. Normalement, c'est une façon de créer justement une confiance légère, une confiance virtuelle, mais quand même, lorsqu'on sait parler, c'est très difficile de...
Oui,
voilà,
ça,
justement.
Je retrouverais plutôt ça par les histoires d'engagement à l'intervention
jaune. Oui, non, mais en fait, c'est pas complètement...
C'est pas vraiment...
Dans le cas de la confiance en deux objets, on travaille de manière routinière, par exemple, et routinisée avec un ordinateur, la première fois qu'on a perdu, par exemple, un article, on se dit, je peux plus continuer à travailler ainsi. Et donc, à partir de quand l'article commence à être un peu important, bah, on fait des sauvegardes sur le CD ou sur le USB. Et donc, on prévient le fait que la routine pourrait se rompre et que donc, c'est le même cas que le virus. On sait qu'un virus peut tomber en panne, c'est risqué. Donc, on fait toute une série de tests et on double les systèmes, on les triple, pour que le pari.
Mais l'Airbus, quand même, c'était un cas différent. C'était la confiance dans un réseau. On peut avoir confiance juste dans un ordinateur. Tandis que l'Airbus, moi, j'ai offert à mon neveu un billet pour la Chine et j'ai acheté Aeroflot. Et puis, j'ai eu des sentiments terribles. J'avais des mémoires que Aeroflot, quand j'étais petite, ça tombait tout le temps, etc. Et puis, j'ai vu que maintenant, Aeroflot fait partie du SkyTeam, groupe SkyTeam. Et là, ça m'a donné une espèce de sécurité complètement absurde. Mais enfin, je lui ai dit, s'il est dans le groupe de...
Ouais, mais très en liaison avec ce que tu dis, moi, je trouve, par rapport à ce que vous disiez sur la confiance dans les choses, dans les objets, etc. Moi, je ne suis pas sûre aujourd'hui que dans... Il y a la confiance dans les objets, mais il y a surtout la confiance dans les symboles, enfin, je veux dire, dans les symboles et dans les labels et dans les normes, etc., qui entourent ces objets. Je veux dire...
À quoi ils servent ces labels
À certifier.
Symbole. Oui, mais c'est tout un appareil de preuve. Soit on les prend comme des signes, simplement, dans un.
Mais
logique.
Je pense que la plupart des gens les prennent comme des tristes tabous. Enfin, je veux dire, c'est des signes que vous pouvez faire confiance. Et ne se pose pas la question.
Oui, mais vous articulez
c'est des signes de.
Comment
pardon
c'est conventionnel.
Ça bah oui,
c'est un régime conventionnel pur. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de différent enfin, quand vous remettez l'accent sur les choses, etc., qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Parce que moi, j'ai pas compris. Parce que pour moi, ça rentre vraiment dans le régime conventionnel et de la labellisation de tous. Enfin, cet immense fond qu'est la labellisation, la certification, la normalisation.
Non, j'insistais
mais
sur
c'est
le.
C'est un régime de coordination qui me paraît.
Oui, mais j'insistais sur le fait que dans l'évolution qu'on voyait, c'était des biens de nature extrêmement diverses qui, normalement, seraient, je répète, débattus dans leur. Dans leur composition au niveau de la délibération politique, qui se transformait en label. Et la transformation, au fond, elle est tout de même
quoi, par exemple ? Donnez un exemple.
Eh bien, je les ai donné, les exemples. Label écologique, label hygiène, label de fairness. Donc, ça fait... vous voyez, les débats qu'on pourrait avoir sur l'agriculture, qu'on a sur l'agriculture, là, ils sont transformés en label des objets entre lesquels les acheteurs choisissent en principe, en toute connaissance de cause. Ça fait une transformation de la politique significative. C'était tout.
Oui, et là, tout au bout.
C'est pas une question, c'est justement pour la discussion qui a eu lieu entre le parlement de l'économie et l'économie. Vous avez posé la question de cette variabilité qu'on pouvait avoir dans la confiance selon les pays. Et puis, dans sa réponse, le parlement de l'économie a aussi argumenté à plusieurs fois les différenciers. Je vais dire les catégories sociales aussi, je vais ajouter.
Ah non, pas de catégories sociales.
D'accord. Vous savez que j'allais un peu vite. Je voulais juste dire qu'on a, on a un élément qui va être beaucoup moins fin que les traitements théoriques que vous faites, mais on a des données déjà disponibles, puisque une semaine tous les 2-3 ans, une vague d'enquête qui est une enquête sociale européenne, auquel participent 25 pays, et il y a un gros module sur la confiance.
Oui, mais justement, le problème, c'est que là, on a énormément d'enquêtes sur ça, des âmes. Est-ce que vous faites confiance à... Le problème, qu'est-ce que ça veut dire quand on demande ça? Est-ce qu'on fait confiance, justement, à l'institution, aux personnes, au niveau de la relation personnelle? Sur ça, d'ailleurs, je voulais revenir juste pour un exemple qui me... Au fond, ce régime de familiarité me pose un problème. Prenons la situation la situation de méfiance active qu'on a tous vécue dans un aéroport. Enfin, on fait l'hypothèse que vous êtes un potentiel criminel, qu'il faut que vous enlevez la veste, les chaussures, etc. Tout dans un régime qui est un peu... Moi, parfois, je prends une espèce d'attitude au deuxième ordre, ça semble délirant, enfin, parce qu'on est tous gentils, on n'accepterait pas des violations de certaines pratiques... Justement, on a une certaine familiarité, si on voyage beaucoup, on a une certaine familiarité avec ces pratiques aujourd'hui, mais au fond, c'est de la méfiance active, enfin, c'est un régime de méfiance, c'est un régime de méfiance presque insupportable. Moi, je me sens touchée par le fait que quelqu'un pense que je suis
une criminelle. Oui, non, mais vous n'êtes pas seulement touchée.
Donc ça viole un peu...
Non, parce que la familiarité, ce n'est pas avec le poste de police et de contrôle. Là où la familiarité intervient dans votre description... C'est précisément dans la façon dont vous vous sentez violé, parce que vos effets les plus proches, et votre corps éventuellement, mais même déjà, tout ça a été déballé, déployé, et atteint par un agent qui n'est absolument pas dans ce régime-là, mais qui, lui, exécute ses plans et ses règlements conventionnels. Donc c'est
pour pas d'attaque, là, c'est simplement une question de respect, de la
mais non, parce que justement, vous voyez,
pas de confiance.
Mais oui, mais attendez.
Je m'attends à être respecté même dans une situation de méfiance. Justement,
vous pouvez traiter ce problème, et il a certainement été traité à cause des procès qui ont eu lieu, vous pouvez le traiter en droit, en disant, je fais un procès en disant l'intégrité de ma personne a été attaquée. Et vous perdrez votre procès parce qu'évidemment, le droit balance. Donc il va balancer ça avec la sécurité. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que vous avez décrit, vous, dans la violence, qu'à le dire, presque du viol, ça ne relève pas d'un procès que vous feriez, vous voyez, dans un ordre libéral. Ça relève précisément de l'atteinte d'un régime sur un autre. Vous n'êtes pas dans un rapport avec la personne qui est en train de vous tripoter, d'ailleurs, éventuellement.
Non, mais c'est qu'on peut demander de la fairness, disons, même dans des situations de méfiance. J'accepte qu'on se méfie de moi, mais je ne veux pas qu'on me viole ma... Et de l'autre côté, on peut être confiant. Si je torture quelqu'un pour avoir de l'information, je suis dans une situation de vulnérabilité cognitive parce que c'est lui qui a l'information et je lui fais confiance de me la donner parce que je suis en train de l'étonner. Je connais bien la fiabilité de mes méthodes. Donc, on peut, disons, séparer complètement des situations de fairness. Non, mais justement, c'est pour ça que je veux distinguer. Je veux distinguer qu'on a tous envie d'avoir des situations où on est respecté, où on ne te met pas les mains, mais ça peut être des situations de méfiance. Et on peut avoir des situations qui sont des situations où on fait confiance, par exemple, à un autre de vous donner une information, qui sont des situations qu'on n'a pas envie de vivre de toute façon. Donc, c'est ça, je voulais détacher les deux.
Prendre une autre question tout au-dessus.
S'il y a des gens qui sont intéressés par les données sociales,
Alors, dites les questions, par exemple, sur la confiance, elles sont formulées comment pour continuer l'échange.
Vous rencontrez quelqu'un le soir dans la rue,
ouais.
Vous pouvez lui faire confiance.
Ah, ça, c'est le plus important. Oui, ça,
c'est pas quelqu'un. Ah non, non, mais...
Une question comme ça, donc il y a... Alors, il y a des questions plus abstraites et plus habituelles. C'est, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une différence entre un agent de police,
les institutions classiques,
les différentes institutions y passent. Il y a une question très générale sur, en général, diriez-vous que vous avez plutôt confiance en fait autrui. Et donc, on pourrait sélectionner les questions.
Et les précédentes. Mais par exemple, les Russes ont fait ça sur toute la période post-Papanou, l'EVADA, le centre de statistiques. Et ils observaient des évolutions significatives. Donc ça produit quelque chose. Hein. Je n'ai pas dit du tout que... Je ne disqualifiais pas ces chiffres. Je disais que... Oui.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire, parce qu'il y a quand même... Il y a une différence entre le discours de la confiance et les pratiques de la confiance. Si on t'interroge chez la police, tu peux dire que tu n'as plus confiance à la police de ton pays. Donc si tu as le moins de problèmes, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas appeler la police. Donc effectivement, il faut distinguer, je pense, qu'est-ce que
c'est je ne suis pas là pour j'ai fait pas mal de quantitatifs, mais dans mon université, je viens de l'université de Liège, je suis identifié comme méthodologue de ce donc je suis plutôt là pour démontrer les quantitatifs. Mais je voulais simplement mentionner ce genre de questions.
Oui,
ça peut être intéressant.
Non, mais tu vois, Louis, les gens qui travaillent un peu à fond là-dessus peuvent sortir des questions un peu plus sophistiquées, y compris sur les différents modes de confiance.
Mais
c'est vrai aussi ce que tu dis, l'entrée par les opinions exprimées.
Monsieur.
S'éloigne un peu du sujet là.
C'est une dernière question.
Énorme question et qui contient.
Juste une petite information.
Oui.
Donc, l'année passée, on a eu aussi un cycle de conférences et on a eu justement une magnifique conférence, si jamais ça vous intéresse, en DOI, par Gareth Tarton. C'était vraiment.
Oui, Gareth Tarton.
Donc, je pense que bon, ça va être publié de toute façon, mais je pense que ça pourra déjà répondre en partie à notre.
Alors, effectivement, premièrement, temporalité. Donc, il y a deux façons d'envisager. C'est une bonne attaque critique. Et je dirais par exemple que ce que fait de longue date Pierre Livet est précisément un travail réellement approfondi sur temporalité. Cependant, je ne me défendrai pas tout azimut. Mais je dirais qu'il y a une évolution du programme et qui tient précisément à ce que ce type d'engagement et de régime supportent des temporalités différentes, très différentes, et qu'en outre, la question de leur feuilletage devient de plus en plus importante dans nos objets de recherche. C'est-à-dire, autrement dit, la question de la consistance de la personne, la composition de la personne à travers ses composés d'engagement. Donc ça nous importe, mais je ne prétends pas que la question est résolue. La politique, c'est tout à fait crucial. Et j'ai au contraire essayé de dire tout à l'heure l'inverse de ce que vous me prêtez comme position. C'est-à-dire que la grammaire politique libérale était tout à fait cruciale pour notre société aujourd'hui, en particulier pour la France où les composantes civiques, industrielles, tout à fait classiques pour soutenir l'État sont complètement impropres à traiter la question des pluralités de culture, d'attachement, etc. Donc, sous cet angle-là, je trouve que le libéralisme est... D'abord, en plus, tout ça, ce sont des familles du libéralisme, comme on le sait très bien, des communautariens américains, mais je trouve que la grammaire libérale est vraiment inévitable avec l'extension ethnique, culturelle et religieuse d'ailleurs, de nos sociétés. Mais, et donc en aucune manière ce discours doit être compris comme une espèce de... les problèmes principaux tiennent plutôt à la composition entre cette grammaire et d'autres. Donc c'était, il me semble tout à fait dans ce sens-là que vous posiez votre question. L'entrée par la confiance me semble être assez propice à voir les problèmes que pose souvent l'imposition de cette grammaire. Par exemple, les Russes, on leur a dit, et eux, ils étaient complices, et maintenant, on en paye 10 ans après très cher les conséquences. Ils ont dit, c'est fini, toutes nos bêtises, on ne le refera plus, une table rase, et maintenant, on recommence à zéro. Et de l'autre côté, on leur a dit, oui, pas de problème, on vous donne tous les instruments du libéralisme, d'ailleurs plutôt économique, mais de toute façon, l'autre vient avec. Vous savez, vous achetez l'un et vous avez l'autre pour le même prix. Ce qui est évidemment complètement faux. Donc, il n'y a eu aucune réflexion, ni chez les importateurs, ni chez la plupart des politiques russes et réformateurs sur cette composition. Et alors, le résultat est évidemment massif et terrible aujourd'hui. C'est une recomposition. J'aurais voulu interroger, mais on en parlera en dehors, Pierre, sur ces recompositions de passé, parce que alors, il se joue à un niveau personnel, mais alors là, il se joue massivement au niveau russe. C'est-à-dire, l'histoire récente est entièrement réécrite. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient démocrates et on a dit qu'on allait tout faire pour le devenir. Et ils ont pilonné la Yougoslavie, donc ils ont prouvé qu'une fois de plus, ils étaient les ennemis des nôtres, Nash. Ce qui vient d'ailleurs, les nôtres, comme vous pouvez imaginer, ça renvoie à d'autres types de constructions du commun qu'une construction libérale. Mais quoi qu'il en soit, le travail d'une intensité aujourd'hui réévaluation de l'histoire terrifiante. Et je trouve que ça a un rapport, comme en France, d'ailleurs, la crise forte qu'on connaît et qui va ne pas manquer de se révéler dans les votes pour le Front National, il y a tout de même un défaut considérable, puisqu'il y a deux camps, côté libéraux, il n'y a pas beaucoup, puisque c'est des espèces de libéraux de droite qui en réalité ne sont pas vraiment des bons représentants. Mais enfin, bon, il y a tout de même des gens pour prôner en tout cas un changement de la posture par rapport aux communautés culturelles. Et de l'autre côté, attaque à fond, qu'est-ce que c'est que ces Américains et tout ça, et on n'est pas comme ça et tout ça. De sorte qu'il n'y a pas d'espace de réflexion sur cette greffe qui est un problème presque planétaire aujourd'hui.
Je vous propose de conclure sur cette réflexion qui nous ouvre des portes justement sur la gouvernance et tous les séminaires qui vont venir. Alors simplement vous dire que les exposés aujourd'hui sont enregistrés et qu'ils seront...